Et on se retrouve sur Chéri FM Vallée du Rhône, toujours donc dans le cadre de ces 35e rencontres du cinéma de Beaurepaire dans le nord de l'Isère. On est toujours notamment avec Arnaud de Gardebosque, hein, le directeur général d'MC4, la société qui gère ce nouveau cinéma Laurent de Beaurepaire. Je dis nouveau parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a eu d'importants travaux qui ont été réalisés, donc il est quasiment neuf, hein, ce cinéma. Et puis on est également avec Léa Todorov, la réalisatrice de La Nouvelle Femme, avec Leïla Bekhti dans le rôle principal, dont on va reparler dans un instant. Et puis également Mathilde De Clercq, qui est la distributrice notamment de ce film et qui nous fait l'honneur également d'être avec nous aujourd'hui. D'abord un mot, Arnaud de Gardebosque, sur le cinéma. Alors on est en plein dans ces rencontres du cinéma de Beaurepaire. On a eu la crise Covid ces dernières années, 2020, 2021 également un petit peu. La concurrence avec les plateformes de streaming également. Est-ce qu'aujourd'hui le cinéma se porte bien? Est-ce qu'il se relève un petit peu de ces années un petit peu compliquées?
Oui, on peut dire que on commence à reprendre une vitesse de croisière acceptable et rassurante. 2022, c'était une année à oublier parce qu'on était vraiment sur un marché de reprise qui a été difficile. En revanche, 2023 va être une année correcte, une bonne année. On est sur une base d'environ moins 10 et moins 15% suivant les salles par rapport à 2019, qui est une année record quasiment pour le cinéma. Donc on est sur une base proche de 2018-2017. Après, nous raisonnons en moyenne dans la profession, mais on est vraiment sur une bonne dynamique.
Donc avec des personnes qui prennent du plaisir à retrouver les salles et finalement qui arrivent à la fois à faire les deux, c'est-à-dire à pourquoi pas regarder des plateformes de streaming à la maison, mais on est quand même bien aussi au cinéma, dans une salle, dans un fauteuil, dans des conditions optimales devant un grand écran. Hein.
De ce côté-là, je vais être clair, un film, ça se regarde en salle, avant tout. Après, si évidemment que les plateformes, ça a pris une place importante dans le paysage de la vision des films, je peux dire ça comme ça, mais à cause du Covid. Mais on voit bien que ça a ses limites, parce qu'on a tous envie de sortir de chez soi, on a tous envie d'avoir une expérience collective pendant qu'on voit un film, à rire ensemble, à pleurer ensemble. Et ça, on a beau dire, on a beau faire, il n'y a que le cinéma qui peut vous apporter ça. Et je pense que là, on constate le retour des gens en salle. C'est avant tout un retour à la vie normale, déjà, bien sûr, mais c'est aussi pour retrouver ça, ce partage social et cette expérience commune quand on voit un film ensemble.
Tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant la crise sanitaire, finalement, hein, et qu'on s'empresse de refaire aujourd'hui. Exactement. Donc c'était un peu plus long pour le cinéma, pour les salles de spectacle également, mais ça y est, on commence à revoir du monde dans les salles, hein, vous le disiez.
En tout cas, les signaux redeviennent verts. Donc j'espère que ça va durer pendant les années à venir qui arrivent. Mais là, vraiment, c'est rassurant, cette année rassurante.
Alors c'est une bonne nouvelle pour tous les réalisateurs, pour tous les acteurs. Léa Todorov, on va parler de ce film, La Nouvelle Femme, que vous avez présenté hier soir à Beaurepaire. Moi, ce qui me frappe, c'est votre ambition, parce que c'est votre tout premier long métrage de fiction, et vous n'avez pas fait dans la simplicité quand même, hein, parce que au niveau de l'histoire, au niveau des pays, des acteurs, et puis de l'actrice principale et également qui est Leïla Bekhti, on sentait que ça vous tenait vraiment à cœur, hein, de traiter ce sujet-là, enfin ces sujets-là, parce qu'on n'a pas qu'un dans ce film. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu déjà, ce film, pour commencer?
Ah oui, alors ça c'est toujours super difficile, mais bon, alors dans le film, on rentre dans le film avec le personnage incarné par Leïla Bekhti qui joue une cocotte parisienne, un peu au fait de sa gloire, et qui est rattrapée par son passé en la personne de sa fille, qui est une enfant qu'aujourd'hui on appellerait neuroatypique, à l'époque on disait déficiente.
Ou idiot même, je crois, dans
le
film.
Idiot même, ouais. Dans le film, voilà. Et dont elle a honte, parce qu'à l'époque, avoir un tel enfant, c'est quelque chose d'inassumable. Et donc elle part à Rome, parce qu'elle connaît quelqu'un qui va pouvoir la loger là-bas. Et elle rencontre Maria Montessori, qui est une pédagogue dont on connaît les écoles aujourd'hui, au moins souvent le nom, mais dont on sait moins qu'elle a commencé par un travail avec ses enfants différents et une éducation spécialisée. Et en gros, le film va raconter la trajectoire de ces deux femmes. Alors, le personnage de Lily Dallangy à la rencontre de son enfant, et le personnage de Maria Montessori a également, elle s'est racontée dans le film, un enfant qu'elle cache. Et elle va, en gros, devoir faire des choix très difficiles pour trouver sa place dans le monde comme pédagogue et comme femme.
Mais ça dit beaucoup sur l'époque, hein. C'était au début du XXe siècle, en fait. Hein.
Oui, le film, il est situé en 1900.
Ouais, en 1900. Avec donc à la fois la condition de ces enfants idiots. Moi, il y a des phrases qui m'ont marqué, hein, dans le film, parce qu'on disait, voilà, que c'était des idiots qui n'avaient rien à faire, en fait, pour que ils puissent avoir une existence entre guillemets d'enfant normal, en fait. Et puis il y a la condition des femmes, dont il est beaucoup question justement à travers ces deux femmes, hein, justement. C'était important pour vous de vous emparer de ces questions là
En tout cas, quand j'ai réfléchi, c'est pas tout à fait venu dans ce sens là j'avais l'ambition, donc, avec mon producteur qui m'a quelque part donné les ailes pour l'avoir, de faire un film autour de la figure de Maria Montessori. Et je trouvais que ce moment où elle travaille à la fois avec ses enfants et où elle est dans la période peut-être la plus féministe de sa vie et en même temps confrontée à des choix personnels les plus intenses, me paraissait ce qu'il y avait le plus intéressant à raconter. Et puis voilà, plus j'ai progressé dans la fabrication du film, plus j'ai été confortée dans ses choix et entre autres dans la volonté de mettre les enfants aussi au cœur du film.
Les enfants, effectivement, ils sont vraiment au cœur du film, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont un peu cachés. Donc à la fois l'enfant de Maria Montessori et puis l'enfant de Lily Dallanger aussi, qu'elle cache vraiment. On a presque l'impression que c'est une bête de foire au départ. Enfin voilà, elle veut vraiment pas qu'elle soit vue en public. Est-ce que vous avez constaté justement, en vous documentant sur ce film, en préparant un petit peu ce tournage, que ça avait beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui?
Ah non, je crois pas. Je trouve qu'on les cache encore, ces enfants, dans des instituts fermés, loin des yeux. Et donc, justement, j'avais envie avec ce film d'attirer au contraire l'attention sur le fait que notre regard a toujours du mal à se poser sur ces enfants, qu'on les évite quand on les voit dans la rue, qu'on en a un peu peur, qu'on a beaucoup d'appréhension. Et c'est aussi pour ça que le personnage de Lily Dallanger, qui n'arrive pas à regarder sa fille au début du film, est quelque part celle à laquelle le spectateur peut s'identifier, puisque je pense que le spectateur lambda, comme moi au début de l'écriture de ce film, a le même rapport avec ses enfants qu'à l'époque on avait, savoir un rapport quand même beaucoup de rejet.
Ouais, puisque on la voit plusieurs fois traiter sa fille d'idiote, en fait, hein, dans le film, et s'énerver contre elle. On a presque l'impression qu'elle ne la considère pas au départ, en tout cas, comme un enfant, en fait, hein. C'est l'impression qu'on a en regardant le film.
Oui, en tout cas, elle a l'impression, et c'est ça que Maria va lui dire à un moment, que ça la renvoie à quelque chose d'elle-même qu'elle supporte pas. Finalement, si elle n'arrive pas à faire face à l'enfant qu'elle a eu, c'est moins l'enfant qui est en jeu que son narcissisme blessé.
C'est une biographie, c'est-à-dire que ça s'est vraiment passé comme ça au départ, la création de l'école Montessori qu'on connaît tous aujourd'hui, tout s'est passé comme ça.
Oui, sur la partie sur Maria Montessori dans le film, c'est un film qui mélange vraiment une partie très historique quelque part, très documentée disons, et où j'ai globalement respecté assez précisément les faits, avec la partie fictive qui est autour du personnage de Lily Dallanger. Et donc oui, Maria Montessori, elle est vraiment l'héritière de l'éducation spécialisée qui avait évolué en France au cours du 19e siècle et ailleurs. Elle est venue se documenter, entre autres en France, dont j'ai vraiment retrouvé les traces de son stage à Paris, où elle est venue chercher le matériel qu'elle a ensuite ramené à Rome. Donc complètement, et je pense que c'est toujours intéressant de se rappeler que les pédagogies alternatives, très modernes comme ça, en fait trouvent leur base dans l'éducation spécialisée.
Et puis elle a été également, on a l'impression, une précurseur dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, parce qu'elle était contre le mariage, elle le disait, et puis elle disait que le mariage pour elle c'était pas un acte d'amour, c'était vraiment un acte d'esclavage, voire d'asservissement. Donc vraiment, on peut penser que certaines femmes aujourd'hui s'inspirent peut-être de l'héritage de Maria Montessori, en tout cas.
Oui, en tout cas, elle a fait partie des pionnières dans le fait de nommer toutes ces choses. Et c'est intéressant aussi parce que c'est une phase de sa vie dont je parle dans le film, où pareil, pour le coup, très souvent, je la cite vraiment mot pour mot, alors voilà, de discours très variés, etc. Mais qu'elle a ensuite complètement détourné de cette problématique-là dans le reste de sa vie. Mais je trouvais ça très intéressant de rendre compte de ce moment où elle est peut-être la plus politisée sur ces questions-là, et qui sont aussi, parce qu'elles entrent à ce moment-là, le plus en résonance avec sa vie intime. Et je pense qu'il y a toujours un rapport entre ce qu'on vit et ce qu'on prône, et donc chez elle, c'est cette volonté de rester indépendante. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était de montrer comment c'était une société qui était de fait une société d'apartheid, alors même que tout le monde est plutôt de bonne volonté dans le film. Son compagnon, c'est quelqu'un de moderne, qui aurait plutôt les idées ouvertes. Mais finalement, la société est tellement conservatrice et tellement inégalitaire qu'elle se trouve broyée par le système qui est plus fort que les volontés individuelles.
Finalement, il s'inscrit dans son époque, quelque part.
Ouais, ouais, c'est ça.
Merci d'avoir répondu à nos questions. On va vous redonner la parole pour terminer. Mais Mathilde Declercq, comment on choisit de distribuer tel ou tel film, par exemple pour La Nouvelle Femme, Comment on fait ces choix-là? Comment ça se passe un petit peu?
Là, dans le cadre du film de Léa, c'est dès l'écriture du scénario. En l'occurrence, le film n'a pas été tourné encore. Et puis, dans le cas d'Ad Vitam, la société que je représente, il y a une vraie volonté de défendre des premiers films aussi, des premiers films français, ce qu'on fait depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est une relation de confiance entre un producteur et un distributeur sur un projet à porter.
Et pareil pour vous, du coup, Arnaud de Gardebosque. Donc, je lisais, directeur général de la société qui gère ce cinéma Le Rond, où se déroulent ces rencontres du cinéma de Beaurepaire. Comment vous faites le choix de programmer tel ou tel film ou de ne pas les programmer?
Alors nous, c'est un peu différent. Nous, on voit le film déjà. Après, il y a le facteur goût, enfin ce qu'on pense du film, nous, à titre personnel, en tant que programmateur de cinéma. Et après, il faut prendre un peu de recul sur notre goût et envisager que le film peut plaire au public de la salle qu'on programme. Donc il y a deux façons de penser, de voir le film, en tant que spectateur d'une part et en tant que programmateur de salle, qui ne fait pas forcément en fonction de ses goûts propres. Après, il y en a d'autres qui raisonnent en fonction de leur goût et qui assument jusqu'au bout. Mais pour moi, un programmateur de salle, c'est avant tout pour le public. Si on part de ça, les choix se font en fonction de ce qu'on pense être le mieux pour la salle. Et évidemment, pour faire le plus d'entrées possible. Alors après, je pense, certains le font peut-être, mais on n'est pas là non plus pour voir nos travaux diables.
Si sur des thèmes, par exemple, ou sur des images qui seraient montrées, ça peut se jouer là-dessus.
Ça peut se faire, sur des films qui sont ultra violents, ou sur des films qui véhiculent une parole qui n'est pas bonne pour le cinéma ou pour les spectateurs, que ça pourrait heurter pour certains. On a une sorte de responsabilité à montrer des choses qui sont de tout univers, de tout bord, que ce soit politique ou pas.
En tout cas, il y aura pas mal de beaux films à découvrir, notamment ici au cinéma Le Rond de Beaurepaire. Dans le cadre de sa rencontre du cinéma, il y a 5 hectares qui va être diffusé avec Lambert Wilson, qui sera présent ce soir ici aux rencontres du cinéma de Beaurepaire. C'est important pour vous d'avoir ce genre d'acteur aussi sur un événement comme ça. Comment vous l'avez convaincu de venir ici à Beaurepaire?
Alors oui, c'est très important d'avoir des acteurs populaires, parce que ça aide et le cinéma et les rencontres à se développer et puis à attirer le plus de monde possible. En plus, il a fait un gros effort, parce qu'il est venu en voiture de Tonnerre. Donc ça fait quand même une trotte, donc il avait vraiment envie de défendre le film. C'est la base première déjà de sa présence, c'est-à-dire qu'il a envie de défendre le film, il aime le film, donc il va partout où il peut aller, en fonction de ses disponibilités. Là, il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. On a aimé le film, on a envie de le défendre. C'est un film aussi qui parle de la ruralité. On est à Beaurepaire, qui est quand même une zone rurale dans le meilleur des termes possibles. Donc voilà, c'est un tout. On est passé par le distributeur, donc par une personne que, comme Mathilde, chez un autre distributeur qui s'occupe du film. On lui a fait une demande, on a un peu insistant, en disant que c'était la reprise des 35e de rencontre avec l'ouverture du cinéma. Donc tout ça a fait qu'on a la chance d'avoir Lambert Wilson ce soir.
Et le point commun peut-être qu'on peut faire entre Lambert Wilson et Leïla Bekti, Léa Todorov, qui joue le rôle principal de votre film, c'est que peut-être ils sont vraiment capables de jouer une large gamme, une large palette dans leur métier d'acteur. Enfin, moi, ça m'a vraiment frappé sur le film avec Leïla Bekti, c'est-à-dire qu'on est très très loin de ce qu'elle peut faire dans les comédies traditionnelles, etc. C'est aussi ça qui vous a poussé à la choisir pour ce rôle?
Ah oui, complètement. Je trouvais que c'est très agréable en tant que réalisatrice d'imaginer que les acteurs peuvent faire autre chose que ce qu'ils ont déjà fait ou déjà l'habitude de faire. Et en même temps, on le sait, on l'avait déjà vu avant, que Leïla Bekti, c'est une comédienne qui a une très large gamme de jeux. Et surtout, moi, ce qui m'a convaincu de le faire, c'est que je pense que son personnage, vous avez raconté un peu que pouvait traiter sa fille d'idiote, avoir du mal à la regarder, enfin, c'est quand même des choses très difficiles. Il fallait une comédienne qui arrive à soulever notre jugement pour qu'on rentre pas en opposition au personnage dans le film. Et qu'on accepte de la suivre sans la condamner. Et je trouve que Leïla Bekti, elle a vraiment eu ce talent.
Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir participé à cette émission donc sur Chérie FM Vallée du Rhône. Et puis, on le rappelle, donc les rencontres du cinéma de Beaurepaire se déroulent jusqu'au 3 décembre prochain, notamment ici au cinéma Le Rond. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Chérie FM Vallée du Rhône.
Merci.